Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes à l'écoute de l'émission Il est une vallée. Pour aujourd'hui, un portrait d'adhérent, nous sommes dans les studios de Erdiwa avec Nikita. Bonjour Nikita.
Bonjour tout le monde.
Alors Nikita, tu es animatrice de vie locale au sein de l'EVS, de l'espace de vie sociale Val de Quin, qui se situe à Saint-Julien-en-Quin. Alors, un EVS, c'est un espace de vie sociale, une structure de proximité qui est gérée par une association, un organe public ou bien une entreprise publique locale. C'est un espace qui vise à renforcer les solidarités et les liens sociaux entre celles et ceux qui vivent sur un territoire, famille, enfants, personnes isolées, âgées, femmes, etc. La liste serait longue, mais il me semble que chaque EVS a un peu ses particularités et son ou ses axes propres. Donc on va pouvoir un peu explorer ce champ-là et savoir qu'est-ce qui fait les particularités de l'EVS Val de Quin, quelles activités vous menez, qu'est-ce que ces activités permettent et quels besoins sociaux elles viennent soutenir. Donc je rappelle que cette émission d'Il est une vallée vient s'intégrer à notre cycle L'école du dehors. Nous aurons donc l'occasion de parler un peu de ce dehors. D'autant plus qu'à Val de Quin, vous êtes dans un espace naturel assez imposant, on va dire, en tout cas omniprésent et très beau. Voilà, donc on va pouvoir parler des richesses dont il regorge. Mais avant toute chose, on va essayer de savoir un peu plus qui tu es, comprendre ton parcours. Qu'est-ce qui t'a un peu amené ici dans le Diwa et qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec l'espace de vie sociale Val de Quin? Donc ça fait beaucoup de questions.
C'est parti pour 4 heures de radio. Donc moi je m'appelle Nikita Smith et je suis originaire de Bretagne. Je suis arrivée dans le Diwa il y a à peu près 2 ans. En fait j'avais mis les pieds donc un été il y a 2 ans. Pour la première fois je suis allée manger... une glace chez Christine avec deux personnes qui sont devenues mes collègues. Et en fait, 2 mois plus tard, je crois, j'ai déménagé dans la Drôme. Donc, j'avais aucune idée de à quel point c'était difficile de se loger. Donc, en fait, j'ai atterri par chance au-dessus de Boulk, dans un hameau complètement perdu. Et ça, c'était assez incroyable. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et en fait, du coup, je me suis installée ici parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec un écrivain qui est dans le coin et de pouvoir créer mon propre travail, en fait, et d'être salariée d'une association qu'on était en train de créer. Et il y a quelque chose dans l'écologie qui s'appelle le PFH, qui s'appelle le putain de facteur humain. Et du coup, l'été dernier, en fait, ça s'est un peu écroulé. J'ai cherché un autre travail et quelques mois plus tard, j'ai postulé chez Val de Quin.
Ok. Le PFH, c'était une notion que vous développiez à ce moment-là ?
Non, pas du tout. C'est ce qu'on dit, en fait, parce que moi, j'ai eu des petits soucis avec mon collègue. Et en fait, souvent, dans les projets collectifs, des fois, l'idée, elle est vraiment incroyable. Il y a plein de belles valeurs. Mais humainement parlant, des fois, ça fonctionne pas. C'est un peu les difficultés du collectif. Et voilà.
Ok, donc tu as laissé un peu ce boulot-là pour aller bosser à Val de Quin, enfin trouver une autre opportunité dans ta vie professionnelle, on va dire.
C'est ça, ouais.
Qu'est-ce qui t'a attiré à Val de Quin? Pourquoi t'as voulu t'engager là-dedans?
Déjà, ce qui est marrant, c'est que ma collègue Marie, elle a fait le même master que moi à Paris. C'est un master qui s'appelle Bioterre, Biodiversité, Territoire et Environnement. Et en fait, il y a un an et demi, on s'est retrouvés par hasard à la Carline. Et on n'était pas dans la même promo, mais moi, à un moment, je donnais des cours dans le master. Et voilà, on s'est retrouvés là. Elle m'a dit qu'elle travaillait à Val de Quin, que c'était super. Et là, donc, elle m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait. Et moi, ça me disait bien, en fait, là, le poste, c'était plus sur de l'accompagnement de projet. Et c'est ce que je cherchais aussi.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu, du coup, là, le poste que tu occupes en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes missions à toi?
Donc, je suis animatrice de vie locale. En fait, dans l'EVS, on est trois. Et on a chacune un peu une mission principale. Et après, plein de choses qui gravitent autour. Par exemple, Marie, elle est chargée de mobilité et transition énergétique. Mais aussi, elle est aussi en charge de la commission culture. Et moi, du coup, c'est plutôt sur l'accompagnement des projets des habitants. Donc en fait, les habitants, ils viennent avec des idées et on les aide en fait à créer ces projets, des projets collectifs. Donc j'ai cette casquette-là, je suis référente de la commission parentalité. Donc c'est du soutien à la parentalité à travers des événements, des ateliers. Là, on organise la fête des enfants le samedi 21 mai à Marignac. Chacune, toutes les trois, en fait, on se partage des missions communes comme de l'aide au droit et de l'aide au numérique. Donc en fait, on fait ça sur nos permanences. Donc en fait, chacun des postes répond à nos trois objectifs de notre projet social. Donc le premier objectif, c'est de lutter contre l'isolement. Ensuite, on veut favoriser le lien intergénérationnel et le lien social. Et enfin, favoriser la transition et la résilience de la vallée. Donc c'est vraiment un cheval entre le social et l'écologie.
C'est des objectifs que vous avez fixés pour Val-de-Quin.
C'est ça, oui.
Ok. La troisième personne, tu ne nous as pas dit, il me semble.
Elle s'appelle Marie-Flore, c'est la coordinatrice de l'association. Et elle est plus en charge des projets sur l'alimentation.
Comment les personnes de la Vallée de Quin investissent l'espace de vie sociale et font appel à vous ?
Déjà, cet espace de vie sociale, il a 12 ans. Et en fait, à la base, il avait été créé pour lutter contre la fracture numérique. On était juste un espace public numérique, un EPN. Et en fait, ce qui je trouve assez incroyable, c'est que chaque salarié colore un peu l'asso avec ses compétences. Et en fait, on a été agréé par la CAF, puis on a eu des premières subventions leader qui fait qu'on grossit de plus en plus. Du coup, on a vraiment une... je trouve que ce qu'on fait à l'échelle d'une vallée, c'est quand même assez incroyable. On a des vélos électriques en partage, on a un verger partagé. Il y a vraiment une dynamique vraiment importante. Et je pense que les habitants, en tout cas de ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont contents d'avoir un lieu de coworking dans une vallée comme ça, par exemple, de pouvoir venir imprimer des choses, d'avoir un peu un relais aussi de la CAF. C'est assez précieux quand même les services qu'on propose. On fait aussi du prêt de matériel de transformation agricole. Et donc ils sont assez impressionnés justement qu'il y ait une telle dynamique dans un village comme ça. Après, on essaie justement, notre mission depuis cette année à peu près, c'est vraiment d'essayer d'inclure encore plus les personnes qui sont vraiment nées dans la vallée, qu'on a du mal à toucher, qui ne comprennent pas forcément nos missions. Et donc on travaille aussi sur le vocabulaire qu'on utilise pour essayer d'être vraiment le plus inclusif possible.
Qu'est-ce qu'il y a dans le vocabulaire qui serait gênant ?
Souvent, on parle de, par exemple... c'est beaucoup sur la communication non violente, la gestion des émotions, beaucoup de métaphores sur l'arbre de la vie, etc. Un peu sur la spiritualité, des choses qui ne parlent pas forcément à des personnes qui sont beaucoup plus concrètes et qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire-là.
Comment, dans ce processus d'inclusion, jusqu'à quel point les habitants et habitantes de Val-de-Quin font partie prenante de tous les projets ?
Nous, on lance des projets que s'il y a assez de bénévoles pour le porter. Déjà, le CA, j'ai déjà été dans d'autres assos et c'était plutôt des CA qui étaient ce qu'on appelle des CA fantômes, qui en fait juste disent oui, bravo aux salariés. Mais là, il y a vraiment une implication de tous les bénévoles au conseil d'administration. Je trouve ça assez impressionnant d'ailleurs le temps qu'ils donnent. Et dans chaque commission, en fait, pareil pour la fête des enfants, par exemple, au début, c'était difficile de mobiliser des parents, surtout après le Covid, où en fait, ils sont juste épuisés. Du coup, pour eux, la parentalité, c'est plus pouvoir souffler, se retrouver, mais pas être encore dans de l'organisation. Donc, s'il n'y a pas plus que 3-4 bénévoles, on annule les projets, en fait.
Ça permet de ne pas se surcharger, de se surmener.
C'est ça, ouais. Et puis aussi de faire des projets qui ont du sens et qui répondent aussi à un besoin.
Et combien de personnes vont être touchées par le VS ?
On a à peu près 475 adhérents, par exemple. Et par exemple, quand on fait une lettre d'info toutes les deux semaines, il y a plein d'infos sur la vallée. Et les gens s'informent aussi comme ça. Ils peuvent poster des annonces, voir tous les événements qui se passent, etc. Après, des bénévoles vraiment actifs, dans le sens où on les appelle, ils se mobilisent directement. Je pense qu'il doit y avoir une trentaine, je pense, peut-être un petit peu moins. Et après, ça dépend des événements qu'on organise. Et on fait de l'aide au droit et de l'aide au numérique. On doit avoir à peu près 2-3 rendez-vous par semaine là-dessus. Et là, on a un médiateur numérique qui vient une fois par mois aussi pour, enfin vraiment qui est spécialisé là-dessus.
Qu'est-ce que ça permet tout ça selon toi en Vallée de Quin? Quelles activités peut-être pour toi ont été les plus riches dans ce qu'elles ont permis aux habitants et habitantes dans les portes qu'elles leur ont ouvertes par exemple?
C'est une question très intéressante. Je pense que les formations, c'est assez chouette. Là, on a fait une formation, par exemple, pour apprendre à planter des arbres, des fruitiers. J'ai trouvé ça chouette, en fait, de voir autant de gens passionnés par cette thématique-là. Enfin, il y a même des gens qui sont venus de Luz-la-Croix-Haute et j'ai senti que c'était vraiment quelque chose qui les portait. Et après, on allait planter des arbres chez une agricultrice. Et je crois que ce sentiment d'utilité et puis de se retrouver autour d'une thématique qui nous tient à cœur, c'était chouette de voir ça. Et je crois que c'est aussi pour ça. Enfin là, on vient d'avoir du coup une nouvelle subvention pour un projet sur la résilience alimentaire. Et en fait, c'est travailler sur l'alimentation, mais via le prisme des espaces de vie sociaux, qui est l'animation. Et donc on va organiser plein d'ateliers en fait très très festifs pour essayer justement de faire du lien entre les différentes personnes de la vallée via l'alimentation. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en fait. Et de faire tomber un peu les barrières et juste de boire un coup et de manger ensemble et de se rendre compte qu'en fait, on a plein de choses qui nous lient aussi.
Les liens, ils sont là aussi en Vallée de Quin. Est-ce que toi, tu as réussi à avoir une vision un peu globale de peut-être des manques qu'il y aurait, en tout cas aussi déjà des choses qui se font, qui sont existantes, des solidarités qui sont présentes et qui font que la vie sociale est riche.
En fait, du coup, tu m'as fait penser à quelque chose pour répondre à ton autre question, c'est que je crois que ce que j'aime aussi chez Val de Quin, ce qui permet de renforcer l'entraide qui est déjà présente, mais ça la facilite en fait. Et c'est, je crois que c'est ça aussi qui est, enfin, pour répondre à ta question. Et ta nouvelle question, c'était...
Est-ce que le temps que tu as passé en Val de Quin te permet de comprendre un peu voilà, comment se font les relations sociales, comment les personnes interagissent?
Bah, moi, j'y suis depuis octobre dernier et il y a encore des choses que je découvre. Déjà, je ne connaissais pas du tout la problématique des personnes qui étaient nées, enfin des anciens, on va dire, qui sont nés là. Enfin, il n'y a pas que des anciens d'ailleurs, mais qui sont là depuis plusieurs générations. Et des personnes qui viennent juste d'arriver, qu'on appelle les néo-ruraux. Et c'était hyper intéressant pour moi aussi de voir, waouh, en fait, c'est quoi ces deux choses qui ont l'air de s'opposer, en tout cas beaucoup dans les discours. Donc ça, c'est un premier truc que j'ai pris conscience. Et là, par exemple, on s'est associé au comité des fêtes parce que c'est une institution qui existe depuis longtemps et qui, justement, on sont en contact avec des personnes que nous, on touche jamais. Et là, c'était chouette, du coup, de voir que, en fait, les relations sociales, elles s'organisent aussi autour de choses simples comme manger ensemble, comme boire un coup, comme... Enfin, là, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de... on va faire un projet éducatif avec des écoles, d'essayer de faire rencontrer les enfants avec des agriculteurs, des anciens de la vallée, d'essayer de porter leur parole. Et voilà, j'ai l'impression que c'est souvent autour des événements que le lien se fait.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de projets déjà qui sont en cours, qui sont réalisés entre les plantations d'arbres, du coup ce verger partagé. Tout à l'heure tu me parlais de ruches, là il y aurait ce projet éducatif. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un peu qu'est-ce qui est déjà en place et sur quoi est-ce que vous avez envie de vous lancer?
En fait, on a plusieurs commissions. Il y a une commission qui fait d'ailleurs beaucoup rire les agriculteurs qui s'appelle la commission Gratte la Terre, où ils ne comprennent pas du tout le concept en fait, de très amateur. En fait. Donc l'idée, en fait, c'est de... Enfin, il y avait quatre projets liés à l'alimentation qu'on essaye de rendre autonomes. Donc il y avait une pépinière citoyenne qu'on transforme en verger partagé pour qu'il soit autonome. Il y avait des ruches qu'on a appelées un rucher école. Donc là, on vient d'avoir 24 kilos de miel de Val de Quin, incroyable. Merci aux bénévoles. Donc celle-ci aussi va devenir autonome. On a une Kuma, donc c'est qui fait aussi rire les agriculteurs. C'est du prêt de matériel de transformation alimentaire et des achats groupés. Avant, on faisait beaucoup de commandes groupées. Maintenant, enfin, on se rend compte que c'est très chronophage, donc on fait juste de l'huile d'olive. Donc ça, c'est les choses qui vont être autonomisées sur le cours d'une année. Et l'idée, en fait, c'est que là, on est en train de travailler sur un nouveau projet social. Donc on est en train d'aller, on va interroger tous les habitants et les habitantes pour voir en fait quels sont leurs besoins et comment nous on peut redéfinir en fait des actions qui seraient plus adaptées au territoire. Voilà, donc les projets qui vont être autonomisés vont laisser la place à d'autres projets en fait.
Qu'est-ce que tu entends par autonomiser ?
Donc ce sera toujours sous la structure de Val-de-Quin, ça c'est encore à définir. Mais par exemple, le verger, l'idée c'est qu'ils soient autonomes dans leur organisation. Là, ils font déjà des chantiers toutes les semaines. On aimerait bien que, par exemple, il y ait un panneau devant le verger qui permette de savoir quels sont leurs besoins, qui peut s'investir. Et qu'en fait, nous, on les aide à faire de la communication quand ils ont besoin de faire des levées de fonds ou choses comme ça. Mais qu'ils soient quasiment autonomes dans la gestion du verger. Mais du coup, là, pour l'instant, pour être honnête, il y a trois bénévoles actifs. Quand on fait des ateliers ou des événements, on se retrouve vite à 15. Mais vraiment, toutes les semaines, il y en a trois qui sont là. Et l'idée cet été, et ça va avec l'autonomisation, c'est comment on mobilise davantage pour qu'il y ait plus de force et que ça tienne dans le temps.
Est-ce que ça, on pourrait dire que c'est l'une des difficultés que vous rencontrez ?
Ouais, je pense, ouais. En fait, on se rend compte aussi que le Covid, ça a été assez... Enfin, les gens sont plus venus à l'espace de vie sociale, donc ils ont pris d'autres habitudes aussi. Et moi, je l'ai vu surtout avec les parents. C'est la première fois que j'entends vraiment des gens qui disent qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus. Et comme, en fait, ça repose beaucoup sur la mobilisation des bénévoles, en fait, les gens, ils ont d'autres choses qui se passent dans leur vie. Ils ont déjà toutes leurs problématiques. Donc, je sais que des fois, peut-être... Ils ont l'impression d'être trop sollicités parce qu'en fait aussi, c'est une vallée où il se passe énormément de choses, dans le Diwa, où il se passe encore plus de choses. Donc je pense que des fois, on ne sait plus trop où s'investir. Quoi.
Et puis là, l'autonomisation dont tu parles, c'est d'avoir une autonomie à l'échelle, admettons, d'un village, en tout cas d'une vallée. Et ça demande quand même que tout le monde ait une même conscience de la chose, en tout cas une même envie de participer à cette chose-là. C'est vrai que c'est pas forcément évident, puisque j'imagine qu'en plus, il doit y avoir déjà des choses, vu que c'est quand même un milieu rural, des autres sphères d'autonomie qui se font déjà...
Mais après, ce que j'aime bien aussi, c'est que pour une même commission, les gens viennent avec des envies différentes. C'est pas que parce que j'adore l'écologie ou... Enfin, il y a vraiment des motivations différentes et je pense que ça aide aussi à maintenir la cohésion d'un... Enfin, peut-être pas la cohésion, mais de maintenir dans le temps un groupe, quoi.
J'avais envie de te poser un peu des questions qui sont peut-être plus personnelles. Revenir un peu, encore une fois, sur ton parcours. Et je sais que toi, tu es militante, je peux le dire.
Oui, tu peux le dire.
Et j'avais envie de savoir un peu si les actions que tu mènes étaient cohérentes avec les formes de militantisme que tu aimerais pratiquer.
Ce que je trouve intéressant, c'est que, maintenant je le dis parce que j'ai pas peur de perdre mon travail ou quoi, mais j'étais militante chez Extinction Rebellion et... Et en fait, on avait plein d'idées. L'idée, c'était d'avoir vraiment une échelle nationale, voire internationale, qu'on voyait vraiment grand. Et en fait, ça fait plusieurs années que je milite pour changer les choses, je sais pas comment dire, d'une manière assez... Enfin, c'est pas flou, mais en tout cas, c'est pas sur un territoire précis, quoi. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que j'expérimente, en fait. Est-ce que tout ce que je dis, est-ce que toutes les valeurs que j'ai, est-ce que tous les principes, ils peuvent vraiment se... fonctionner à une échelle locale, en fait. Enfin, comment on s'organise. Et je me rends compte que, en fait, c'est difficile de mobiliser sur du long terme. Chacun, en fait, est aussi pris dans sa vie. Mais je trouve ça... Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide à être en cohérence aussi, à avoir plus de... Enfin, j'ai fait un master en biodiversité et pourtant, je me suis rendu compte que je n'avais pas différencié 5 arbres différents, quoi. Donc là, j'ai l'impression de me mettre un peu plus dans le concret et d'essayer d'être un peu plus cohérente. Et donc, c'est intéressant d'essayer à cette échelle-là et d'avoir la liberté aussi d'expérimenter beaucoup de choses. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui aimerait avoir une échelle un peu plus impactante. Parce que des fois... là, du coup, oui, c'est vraiment un changement d'échelle. Quand tu as 10, 15, 20 personnes qui sont là, c'est déjà un peu un succès sur une aussi petite vallée. Et des fois, je me dis, j'ai envie d'avoir une grande, grande échelle... Et c'est aussi pour ça que, je défie un petit peu, mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de monter ma boîte aussi, pour avoir un équilibre en fait, entre l'échelle vraiment locale et concrète, et du coup des ateliers, des animations à une échelle un peu plus nationale, on va dire, de plus de sensibilisation que d'action.
Est-ce que tu penses qu'avec le temps, ça va se faire, une massification un peu dans l'engagement pour la vallée?
En fait, il y a vraiment une volonté au CA de répondre aux habitants de la vallée et du coup de rester à une échelle de la vallée pour que ça colle mieux aux besoins, qu'on ne s'épuise pas à faire du lien partout ailleurs dans la vallée et qu'on oublie en fait les besoins propres des habitants, puisqu'on est vraiment à la base d'un espace de vie sociale, c'est fait pour avoir de la proximité, pour être... pour être là en soutien, en fait. Donc, je pense que vraiment, la priorité, c'est d'améliorer, en fait, les conditions de vie de la vallée et de ses habitants. Et après, si ça peut servir d'inspiration au reste du territoire, c'est super. Et souvent, on est sollicité, justement, pour raconter tout ce qu'on fait. Enfin, là, on a encore accueilli des étudiants de Paris 8. C'est la deuxième école la deuxième fac de Paris qu'on accueille en un an, là. Et qui étudie vraiment le territoire de la vallée de Caen pour étudier en fait toute l'initiative qui s'y passe.
Ils sont étudiants en quoi ?
Là, c'était des étudiants de géographie et ils s'interrogeaient sur ce qui faisait cohésion dans un territoire et toutes les initiatives liées à la transition énergétique.
Vous êtes en lien avec les autres VS du DIWA ?
Là, on est plus particulièrement en lien avec le projet de renouvellement social qui concerne les espaces de vie sociaux et les centres sociaux. Donc là, c'était chouette c'est chouette de travailler là-dessus.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu de quoi il est question ?
Oui, en fait, nous, on est des centres agréés par la CAF et tous les 4 ans, on doit renouveler notre projet social pour continuer à bénéficier en fait des sous de la CAF, et puis aussi pour vérifier que notre projet social correspond toujours aux besoins des habitants. Donc d'habitude, chaque espace de vie sociale fait ça un peu de son côté, et cette année, le SCDD, du coup, le centre social, a proposé qu'on s'associe en fait, et ce qui permettrait de couvrir un plus grand territoire et de mutualiser en fait toutes les connaissances et les données qu'on récolte. Donc on est un peu plus, et puis après, c'est de temps en temps, on a par exemple une commission développement durable avec plusieurs EVS, et l'idée c'est de discuter en fait de quelles orientations on pourrait avoir pour favoriser, donc là ça, on a changé de nom, je crois que c'est l'écologie citoyenne, quelque chose comme ça. Et voilà, en fait on se retrouve sur des thématiques un peu particulières, ou sur le numérique, des choses comme ça.
Est-ce que vous avez identifié collectivement des champs d'action, des domaines dans lesquels il y aurait un intérêt à s'allier pour pouvoir mettre en œuvre des projets peut-être plus importants
Pour l'instant, on n'a pas encore commencé la récolte des données. Par contre, c'est vraiment personnel, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en tant qu'espace de vie sociale et avec les centres sociaux, on avait vraiment aussi on parlait beaucoup du pouvoir d'agir des habitants, des citoyens, et en fait je me suis dit mais les centres sociaux et les espaces de vie sociaux aussi ont un pouvoir d'agir, et là avec tout ce qui se passe en politique, moi je trouve que il y a de plus en plus de mal à avoir des subventions, je trouve que c'est assez stressant en tant qu'espace de vie sociale d'être toujours dans la recherche de financement en fait pour compléter les projets qu'on a. Et j'ai l'impression que ça va être de pire en pire, et je me dis qu'on a en fait ce poids-là d'avoir la proximité avec les habitants pour dire mais en fait là il y a vraiment un besoin, et pour ces besoins-là on a besoin de sous en fait. Et je pense que de faire du lien entre tous les espaces de vie sociaux et avec les centres sociaux, ça permet d'avoir un peu une légitimité, de se sentir plus fort en fait ensemble, d'avoir la crédibilité et un pouvoir politique pour appuyer les lignes politiques, quoi.
Faire bloc.
C'est ça, ouais.
Alors, Nikita, on arrive plus ou moins à la fin de notre interview.
Ah non, c'est si bien de discuter avec toi.
Mais j'ai quand même encore une petite question que je dois te poser, puisque, je le rappelle, c'est un portrait d'adhérent de l'association Biovallée. L'EVS Val-de-Quin est adhérent de Biovallée. Est-ce que toi, tu seras en mesure de me dire pourquoi ?
Bien, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'échelle sur laquelle travaille Biovallée. Elle fait vraiment de la mise en réseau et elles ont des fonds pour des projets parfois qui nous concernent. Là, par exemple, dans le cadre du verger partagé, Biovallée nous finance une formation, enfin met à disposition une formation dans la vallée de Quin. Parce que, enfin, en tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'on touche pas du tout le même public, en fait. Donc, en fait, s'associer et mutualiser certaines choses, ça permet de toucher un plus grand nombre et puis de découvrir un nouveau public. Et c'est intéressant aussi de, comme elles ont une vue un peu globale, en fait, du DIY, de s'intéresser aussi un peu à ça.
Et est-ce que tu aurais quelque chose à y redire, un manque, une critique à faire?
Peut-être que parfois on a du mal un peu à voir concrètement ce qui se passe concrètement sur le territoire, à quoi elles permettent concrètement de faire avancer, parce que du coup on a l'impression que c'est un peu un réseau et qu'il y a beaucoup de fonds qui sont mis sur la communication et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire ci, ça, ça, mais qu'en fait concrètement... Ça bouge pas aussi vite, quoi.
Est-ce que tu aurais une dernière petite intervention à faire?
Le dernier mot, ça serait juste que travailler entre l'écologie et le social, enfin pour moi, on peut plus différencier ces deux choses-là, en fait. Et c'est vraiment, c'est inspirant et c'est beaucoup plus, enfin ça fait plus de sens, en fait, d'associer les deux. Et en plus, maintenant, je dis même plus j'associe les deux, c'est juste ils sont intriqués l'un dans l'autre. Donc j'espère en tout cas que toutes les collectivités et autres structures collectives puissent vraiment, que l'un puisse raccrocher l'autre et inversement.
Pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais une musique qui te ferait plaisir de diffuser sur les ondes de RDY et de Radio Saint-Ferréol ?
Oui, c'est une chanson qui s'appelle... Lovely Day de Bill Withers.
Pourquoi ?
Parce qu'il fait chaud et qu'elle elle donne le sourire.
Super, merci à toi.
Merci.
Et bon après-midi à tout le monde.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Yeah.
comfortable affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I